Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour méditer ensemble sur les versets 1 à 11 de la Sainte Sourate Roréa. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعين المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية
وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما صدق الله العلي العظيم.
Le coup. Qu'est-ce que le coup? Et qui te dira de ce qu'est le coup? Le jour où les gens seront comme papillons éparpillés et les montagnes comme laine cardée, alors, quant à celui dont les balances seront lourdes, alors il sera dans une vie agréable. Et quant à celui dont les balances seront légères, alors sa destination est une fosse. Et que sais-tu de ce qu'elle est? Un feu ardent.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Thank you.
Bismillahirrahmanirrahim. Au nom de Dieu clément et miséricordieux, chers auditeurs, bonjour et bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Nous sommes le 26 Mordad, 1402 du calendrier iranien, 17 août 2023. Aujourd'hui, nous allons vous présenter notre bulletin d'information, ensuite notre commentaire politique. Le leader de la révolution islamique met en garde contre les complots des ennemis, contre le corps des gardiens de la révolution islamique et les forces du Basij. Le leader de la révolution islamique met en garde contre les complots de l'ennemi, contre le corps des gardiens de la révolution islamique. La puissance des drones et de guerre électronique de l'armée iranienne est renforcée. Et le ministre iranien des Affaires étrangères est en visite en Arabie Saoudite. C'étaient les principaux titres de l'actualité. Voici le journal. Le leader de la révolution islamique, l'honorable Ayatollah Khamenei, a reçu en audience jeudi 17 août les membres du Conseil suprême des commandants du corps des gardiens de la révolution islamique. Lors de cette réunion, il a mis en garde contre le complot des ennemis visant à ternir l'image du corps des gardiens de la révolution islamique et des forces du Basij. Les ennemis n'ont aucun moyen de ternir la réputation du corps des gardiens de la révolution islamique, autrement que par de fausses nouvelles, des rumeurs et toutes sortes d'astuces et de stratagèmes, a réaffirmé le leader de la révolution islamique, louant la force d'élite du corps des gardiens de la révolution islamique comme la plus grande organisation antiterroriste au monde. Le commentaire d'aujourd'hui a été consacré à ce sujet. L'armée iranienne a obtenu des acquis précieux dans le domaine des drones et de la guerre électronique et elle continue sérieusement à se renforcer. Le contre-amiral Habibullah Sayari, chef adjoint de l'armée iranienne pour la coordination, a déclaré que l'armée était prête à mener à bien les missions assignées avec sa main-d'œuvre spécialisée, son personnel local, son équipement fabriqué localement et ses exercices continus de défense terrestre, aérienne et maritime. Aujourd'hui, nous avons atteint les objectifs importants dans les domaines de drones, de la guerre électronique et de la cybersécurité et d'autres nouvelles technologies. Le renforcement et le développement de ces acquis, qui font partie du pouvoir de dissuasion du pays, se poursuivront avec le sérieux, a-t-il ajouté. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, effectue une visite en Arabie Saoudite dans le cadre des efforts déployés par les deux pays pour renforcer leurs relations bilatérales. Hossein Amir Abdollahian a été reçu par de hauts responsables saoudiens à Riyad. Il visite le royaume saoudien à l'invitation de son homologue saoudien, le prince Faisal bin Farhan. Les deux ministres devraient discuter des moyens de développer des relations globales. Le prince Faisal s'est rendu en République islamique d'Iran en juin, quelques semaines seulement après que Téhéran et Riyad ont convenu de reprendre leurs relations diplomatiques. Un Palestinien a succombé à ses blessures qu'il a subies lors du raid du régime israélien sur la ville de Jenin avant l'aube de ce jeudi. La victime se nommait Mustafa Al-Kastouni, 32 ans. L'attaque est survenue un jour après que les troupes du régime sioniste ont attaqué la ville de Naplouse, faisant des dizaines de blessés parmi les Palestiniens. La violence du régime israélien contre les Palestiniens ne cesse d'augmenter. De plus en plus de Palestiniens sont victimes des atrocités des forces sionistes tous les jours. Au moins 210 personnes ont été tuées dans les territoires occupés depuis le début de l'année en cours. Les chefs militaires de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, doivent se réunir au Ghana pour discuter d'une éventuelle intervention militaire au Niger. La réunion intervient alors que des informations font état de nouvelles violences meurtrières au Niger. Les hauts gradés devraient discuter des moyens d'inverser le coup d'État au Niger. Ils devaient se rencontrer la semaine dernière, mais la rencontre a été reportée après que les putschistes ont déclaré qu'ils disposaient de preuves suffisantes pour poursuivre le président déchu Mohamed Bazoum pour haute trahison. La menace judiciaire a été condamnée par la CEDEAO qui a lancé plusieurs avertissements à la junte nigérienne. Les dirigeants de la communauté ont déjà ordonné le déploiement d'une force en attente dans le but de réintégrer le dirigeant démocratiquement élu du Niger. Mais l'Union africaine a rejeté une solution militaire à la crise. Le Niger est aux prises avec les conséquences du coup d'État. Et enfin, l'Ukraine a déclaré qu'elle ne serait pas en mesure de recevoir et d'utiliser des avions de combat F-16 de fabrication américaine dans la guerre contre la Russie. L'Ukraine ne sera pas en mesure d'utiliser des avions de combat F-16 en automne ou en hiver prochain, a déclaré le porte-parole de l'armée de l'air ukrainienne. Il est déjà évident que nous ne serons pas en mesure de défendre l'Ukraine en utilisant des chasseurs F-16 en automne ou en hiver, a-t-il dit à la télévision ukrainienne. L'Ukraine a appelé à plusieurs reprises ses alliés occidentaux à lui fournir des avions de combat F-16. Le président américain Joe Biden a approuvé des programmes de formation pour les pilotes ukrainiens sur F-16 en mai, mais aucun calendrier pour la fourniture d'avions de combat n'a encore été annoncé. La Russie a averti à plusieurs reprises que l'afflux d'armes et d'équipements militaires occidentaux ne ferait que prolonger le conflit et augmenterait le risque d'affrontements militaires avec l'OTAN. Le leader de la révolution islamique, l'honorable Ayatollah Khamenei, a reçu en audience jeudi 17 août les membres du Conseil suprême des commandants du corps des gardiens de la révolution islamique dans la Hosseinie de l'imam Khomeini à Téhéran. Lors de cette réunion, l'honorable Ayatollah Khamenei a mis en garde contre le complot des ennemis visant à ternir l'image du corps des gardiens de la révolution islamique et des forces du Basij. La dernière rencontre entre l'ayatollah Khamenei et les hauts commandants du corps des gardiens de la révolution islamique s'est tenue il y a environ 4 ans en présence du général de corps d'armée Qassem Soleimani, le plus haut général antiterroriste iranien assassiné par les États-Unis quelques mois plus tard. Les ennemis n'ont aucun moyen de ternir la réputation du corps des gardiens de la révolution islamique, autrement que par de fausses nouvelles, des rumeurs et toutes sortes d'astuces et de stratagèmes, a réaffirmé le leader de la révolution islamique, rendant hommage à la force d'élite du corps des gardiens de la révolution islamique, comme la plus grande organisation antiterroriste au monde. C'est une organisation militaire bien équipée. C'est une organisation efficace et indépendante, capable d'accomplir des tâches que de nombreuses grandes armées du monde ne peuvent accomplir, a-t-il souligné. L'honorable Ayatollah Khamenei a en outre expliqué comment le corps des gardiens de la révolution islamique se démarquait des autres forces qui ont émergé au début des grandes révolutions, telles que la Révolution française et la Révolution bolchevique en Russie. Ces forces ont souvent fait preuve de tendances destructrices, de désordre et d'un manque de discipline, alors que le corps des gardiens de la Révolution islamique était structuré sous l'autorité centrale de la Révolution islamique depuis le début, a-t-il expliqué. Le leader de la Révolution islamique a évoqué ensuite un sommet de hauts responsables américains, britanniques, français et allemands sur l'île française de Guadeloupe, juste avant la victoire de la Révolution islamique de 1979, ajoutant qu'à ce moment-là, ils avaient conclu qu'il était impossible de sauver le régime de Pahlavi soutenu par les États-Unis en Iran. Néanmoins, ils ont adopté une certaine stratégie dans l'espoir de déstabiliser tout nouveau gouvernement en Iran avec une série de crises, d'émeutes, de menaces et d'actes de terrorisme de grande ampleur. L'honorable Ayatollah Khamenei a souligné que les preuves obtenues de l'ancienne ambassade des États-Unis en Iran, connue sous le nom de « nid des espions », ont également révélé que ces incidents s'inscrivaient dans la stratégie délibérée de l'Occident consistant à déclencher des crises consécutives en Iran. Le leader de la Révolution islamique a félicité le corps des gardiens de la Révolution islamique pour ses efforts exceptionnels, notant que la force d'élite a efficacement contrecarré toutes ces crises, protégeant le peuple iranien de leurs répercussions. L'honorable Ayatollah Khamenei a développé le complot des ennemis pour saper la Révolution islamique en orchestrant les crises dans l'espoir de démanteler finalement la République islamique d'Iran par une manœuvre semblable au coup d'État de 1953. Cependant, le corps des gardiens de la Révolution islamique a réussi à contrer le plan de coup d'État en Iran et cette réussite est à l'origine de la rancune des ennemis contre la force d'élite, a noté le leader de la Révolution islamique.
Bonjour à toutes et à tous. Merci de choisir l'émission Le Débat, diffusée depuis la capitale iranienne Téhéran. Je vous demande de bien vouloir rester avec nous. Dans le débat d'aujourd'hui, nous parlons du discours du secrétaire général de la du mouvement de la résistance libanais. Un discours fort intéressant. Tout d'abord, il a présenté ses condoléances à l'occasion des récents attentats survenus dans la région. Il a dit que les États-Unis avaient pris une nouvelle décision qui consiste à raviver Daesh dans la région. Il a également parlé de la résistance islamique libanaise, bien sûr. Il a dit que depuis fort longtemps, Israël menaçait et passait à l'offensive, mais maintenant, ça consiste à seulement se protéger et se défendre face à la résistance libanaise. Donc, C'est à l'occasion du 17e anniversaire de la guerre des 33 jours qu'il a tenu ce discours que nous allons parler à l'aide des experts des questions internationales qui vont nous joindre tout à l'heure, juste après ce reportage. Restez avec nous, je vous prie.
Le secrétaire général du mouvement de résistance libanais Hezbollah, Sayed Hassan Nasrallah, a prononcé un discours important lundi 14 août à l'occasion du 17e anniversaire de la victoire de la résistance au cours de la guerre des 33 jours de l'été 2006 face au régime israélien. Sayed Hassan Nasrallah n'a pas manqué de présenter ses condoléances à l'occasion de la mort en martyr des victimes des attentats terroristes récemment survenus dans la région, y compris la récente attaque de Daesh en Syrie, le récent attentat suicide revendiqué par Daesh au Pakistan ou encore l'attaque terroriste menée dimanche 13 août par ce même groupe terroriste au mausolée de Shah Cheragh à Shiraz en Iran, compatissant aux douleurs des familles des victimes. D'après le secrétaire général du Hezbollah, il semble qu'il y ait une décision américaine de raviver Daesh dans plusieurs pays. Se référant aux scènes de retour des personnes déplacées après la victoire de la résistance libanaise contre le régime sioniste en 2006, Nasrallah déclarait qu'en un tel jour, ces scènes traduisaient la fermeté du peuple libanais, son attachement à sa patrie et son choix de la résistance au-delà de tout sacrifice. Nous remercions le peuple, les résistants, les institutions militaires et sécuritaires pour leur soutien national et populaire et leur contribution à créer cette épopée légendaire pendant 33 jours, a-t-il déclaré. Haj Qassem, commandant martyr Soleimani, était à nos côtés au cours de cette guerre. Il n'a jamais cessé de nous soutenir. Je l'ai dit à plusieurs reprises ces dernières années, la victoire de la guerre des 33 jours a été la réalisation historique de la promesse divine. Vu l'ampleur de la conflictualité, la vaste appui accordé à Israël et à sa conspiration contre notre pays, il s'agissait véritablement d'une victoire historique dont l'impact se fera sentir pendant de longues années. D'après le secrétaire général du Hezbollah, la guerre de l'été 2006 et la victoire de la résistance dans cette guerre ont largement contribué à la création de l'équation de dissuasion en faveur de la résistance. Ce qui s'est produit l'année dernière concernant la démarcation des frontières maritimes avec l'entité israélienne était également un acquis de cette guerre, toujours selon le secrétaire général du Hezbollah libanais. Tous les exploits des dernières années ont été réalisés grâce à la victoire de la guerre de l'été 2006. La démarcation des frontières maritimes et le début de l'exploration de ressources gazières offshore n'auraient pas été possibles sans les résultats de la guerre de juillet 2006. Dans quelques jours, le navire d'exploration arrivera au bloc 9 dans les eaux territoriales du sud du Liban. Les Libanais pourront remettre leur espoir aux champs gaziers de Cana et autres, a-t-il expliqué. Ailleurs, dans son discours, Nasrallah a affirmé que la résistance a su impliquer le front intérieur israélien dans un état de conflictualité. Une fois la victoire remportée par la résistance lors de la guerre des 33 jours, l'ennemi israélien s'est vu obligé d'intégrer un quatrième facteur à sa stratégie de sécurité qui, jusqu'alors, reposait sur les trois éléments que sont la dissuasion, la menace et l'offensive. Et ce quatrième élément consiste à se défendre, se protéger, et c'est ce qui implique le front intérieur de l'ennemi. Leur quête de système de défense antiaérienne trahit leur peur de la meilleure manière qui soit.
Eh bien, voilà pour le reportage. Ce reportage résume à peu près le discours du secrétaire général du mouvement de la résistance libanais. À présent, j'ai le grand plaisir de vous présenter nos deux chers invités, en commençant par Maître André Chamy, juriste international et expert des questions internationales. Monsieur André Chamy, bonjour.
Bonjour. Bonjour à vous, à vos, votre équipe et à vos téléspectateurs, ainsi qu'à votre invité.
C'est un plaisir de vous recevoir dans l'émission Le Débat, Maître André Chamy. Également, nous avons un autre invité, il s'agit de Emadeddine Hambrouni, expert des questions internationales, qui a accepté notre invitation depuis Paris. Monsieur Hambrouni, bonjour.
Bonjour à vous, à votre équipe, à notre cher invité Maître Chamy, à tous les téléspectateurs.
Voilà, ma première question va s'adresser à Maître Chamy. Vous êtes avec nous depuis l'Alsace. Maître Chamy, c'était un discours fort intéressant qui résume à peu près la pensée de la résistance libanaise à travers donc, le monde, on peut le dire. Et il a beaucoup mis l'accent sur le fait que les États-Unis avaient pris une nouvelle décision qu'il s'agit de raviver Daesh dans la région. C'est pour ça, au début de son discours, il a présenté ses condoléances à l'occasion des récents attentats qui sont survenus dans la région. En Maître Chamy.
Oui, c'est l'introduction de son discours. Mais en même temps, c'est en quelque sorte l'ouverture intellectuelle, si j'ose dire, du discours, parce qu'en réalité, il commence par viser le véritable ennemi de cette région-là, puisque derrière Daesh, il vise directement les États-Unis. Et à ce moment-là, il explique ses liens et cette espèce de remue-ménage dans la région qui commence à se faire parce que les Américains voudraient créer le chaos. Et à ce moment-là, il a rappelé les endroits où des attentats ont été commis, que ce soit en Afghanistan, que ce soit en Irak, en Syrie et même en Iran, parce qu'il faut toujours remonter, si j'ose dire, la filière. Et on découvre que derrière tout ça, il y a une volonté de réorganiser ces réseaux terroristes. Et cette volonté provient des Américains. Mais en réalité, à travers le rappel de ce premier ennemi, il a tracé les grandes lignes, si j'ose dire, de sa vision. C'est-à-dire, il y a toujours deux branches. Il y a une branche de sa vision qui a un caractère intérieur, c'est-à-dire qu'il s'adresse à la population libanaise avec toutes ses composantes, mais également, il met sur le tapis, si je m'exprime ainsi, le conflit régional qui peut même déboucher à un conflit international. Et c'est en filigrane ce qu'on a pu comprendre, parce qu'après avoir rappelé les gains récolté grâce à la victoire de la guerre des 33 jours, qu'il a nommé comme une victoire divine, en rappelant que si on a été victorieux, c'est parce que Dieu l'a voulu, parce que si vous êtes soutenu par Dieu, personne ne pourra vous vaincre, parce qu'il a fait référence à maintes reprises au verset du Coran. Et c'est ce rappel-là démontre qu'il y avait un soutien au-delà du soutien moral, au-delà du soutien politique, au-delà du soutien militaire et politique. Il y avait un soutien de là-haut, et ce soutien-là qui a, en quelque sorte, été le premier qui a caractérisé la victoire et qui l'a concrétisé. Derrière tout ça, il a donné également les gains politiques, c'est-à-dire dans le cadre des négociations à maintes reprises, que ce soit pour libérer les territoires, que ce soit pour créer ce qu'on appelle la terreur réciproque, pour ne pas dire le changement de camp, c'est-à-dire jusqu'à maintenant, ou en tout cas jusqu'en 2006, la terreur était imposée par l'entité sioniste contre les peuples de la région. Et bien ce point marquant a inversé l'équation, et à partir de cette date-là, la terreur a été plus ressentie du côté de l'entité sioniste plutôt que du côté libanais, parce que, évidemment, le côté libanais était habitué à cette terreur-là, mais maintenant, les Israéliens devraient calculer 10 fois, ou refaire leur calcul 10 fois avant de tirer la première balle en direction du Liban. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, il a eu une remarque particulièrement intéressante en disant « Vos menaces, vous, militaires israéliens, contre les Libanais, en disant qu'on risquerait de transformer ou de faire revenir le Liban à l'âge de la pierre, eh bien, attention, parce [S2] Absolument. [S1] Que cette menace on l'a inversé, c'est-à-dire nous aussi, on est capable de vous transformer, vous, en tétisionniste, et vous remettre à l'âge de la pierre. Et là, ça vous coûtera beaucoup plus cher parce qu'il a énuméré les endroits qui pourraient être visés en disant, ben voilà, là on peut frapper. Et à ce moment-là, évidemment, vous reviendriez à l'âge de pierre. Mais en même temps, il a démontré une chose importante, c'est que la dislocation du front intérieur va être le premier défaut, si j'ose dire, de l'antétésionniste, c'est-à-dire avant qu'il y ait eu les véritables impacts d'une quelconque guerre ou de la guerre éventuelle qu'il considère comme acquise, si j'ose dire, c'est-à-dire tôt ou tard, elle viendra, et bien évidemment, le front intérieur risquera de s'effondrer. Il a énuméré un certain nombre de défauts, pour ne pas dire de difficultés vécues par le front intérieur et qui feraient effondrer ce front et qui serait, je dirais, la première digue qui tomberait avant que la guerre en soi donnerait son impact. Et il a rappelé que même si vous deviez aller dans cette guerre-là, vous risquez de la commencer avec le Liban, mais vous risquez de la terminer avec une guerre régionale parce que c'est tout l'axe de la résistance qui risquerait de se sentir impliqué.
Absolument. Merci pour cette introduction. À présent, j'aimerais connaître celle de Emma Deddin Hambrouni qui est avec nous depuis Paris. Alors, ce discours à l'occasion du 17e anniversaire de la victoire de la résistance face au régime sioniste, qui est connu sous le nom de la guerre des 33 jours. Depuis, Emma Deddin Hambrouni, la résistance libanaise a accumulé des victoires dans différents domaines face au régime sioniste. Qu'en dites-vous?
Bien sûr. Bon, Maître Chami a tout dit. Mais il faut aussi remarquer que le discours d'un chef militaire, d'un chef politique de l'axe de la résistance, dans un temps très précis, parce qu'on est dans un changement historique au niveau des rapports de force, c'est-à-dire le rapport de force régional, international, il est en train de changer. Et donc ce changement va créer, si vous voulez, quelques tremblements de terre dans le sens géopolitique et dans le sens de l'équilibrage militaire. Donc c'est un discours d'abord tactique militaire, c'est-à-dire il dit voilà, on est capable donc d'aller très loin dans toute confrontation directe militaire en tant que résistance libanaise, c'est-à-dire rien que le Hezbollah libanais, il est en train de dire j'ai les moyens, j'ai les forces nécessaires, j'ai les aides. Donc si vous pensez qu'on est faible, on n'est pas faible. Et donc c'est un discours très tactique d'abord par rapport à l'ennemi israélien. Deuxièmement, c'est un discours d'ouverture politique à l'intérieur du monde arabe et à l'intérieur du Liban lui-même. Parce que la résistance, elle a besoin, si vous voulez, que le Liban soit dans une, comment dirais-je, une cohabitation politique au minimal. Et donc, la grande force de la région, c'est-à-dire le Hezbollah, qui est la force la plus importante avec l'armée syrienne sur place, dit que par rapport à ses partenaires politiques et même par rapport à ses adversaires politiques libanais, elle est tout à fait ouverte à trouver des solutions politiques pour garder le Liban uni. Donc, il présente la résistance libanaise comme une force pour tous les Libanais, sans différence ethnique ou religieuse ou politique. Deuxième chose importante aussi, il déclare, comme Maître Chami l'a bien précisé, que la décision divine, entre parenthèses, c'est elle qui était décisive il y a 17 ans dans l'affrontement entre l'entité sioniste et la résistance libanaise, et que pendant 33 jours, le changement, si vous voulez, dans la stratégie militaire au niveau de la résistance libanaise et au niveau de l'axe de la résistance, parce que lorsqu'il précise dans son discours la présence du général Qassem Soleimani n'était pas présent en tant que personne. Qassem Soleimani, c'est l'architecte, le grand initiateur de tout ce changement dans l'équilibrage militaire. On a un affrontement militaire avec l'ennemi sioniste. L'architecte de la résistance globale, c'est-à-dire le général Soleimani, si vous voulez, L'outil, le principal outil de l'architecte, c'était la résistance libanaise. Cette résistance libanaise qui était formée techniquement, militairement, mais aussi au niveau de sa idéologie, c'est-à-dire c'est une force stratégique qui ne va pas changer. Et donc l'ennemi doit savoir qu'il a en face de lui, ce n'est pas simplement un parti politique libanais, ce n'est pas simplement une ethnie arabe, ce n'est pas simplement une appartenance chiite ou sunnite ou islamique. Non, il est en face de lui une résistance qui pèse lourd dans le changement stratégique des équilibres entre Israël et le monde arabe, mais aussi entre les États-Unis et la République islamique d'Iran.
Tout à fait. Des propos fort intéressants. Maître Chami, dans une partie du discours de secrétaire général du mouvement de la résistance libanais, il a évoqué le fait que peu à peu, le régime sioniste prend conscience de la force qu'a évoqué Mahdedine Hamrouni également tout à l'heure, et que depuis des décennies, c'était plutôt la dissuasion, la menace, et passait souvent à l'offensive. Mais maintenant, le régime sioniste pense qu'à se protéger face à la résistance. Que pensez-vous ?
Il a rappelé les rapports qui sont donnés par les différents responsables militaires et sécuritaires au sein de l'entité sioniste. Il a démontré ce que les Israéliens savent parfaitement, une parfaite connaissance d'ailleurs d'abord du fonctionnement du pouvoir sioniste, du fonctionnement des décisions militaires et politiques au sein de cette entité, mais également la relation entre la population locale et ce régime. C'est-à-dire il y a un problème qui démontre que cette population ne peut plus faire confiance en son pouvoir politique, parce que jusqu'à maintenant, 17 ans après la guerre des 33 jours, on est toujours au même constat, la population ne se sent pas protégée. Or, le sentiment qu'une population soit protégée, c'était en quelque sorte le paradigme de cette entité. Il a rappelé que c'était Ben-Gurion qui voulait que, en quelque sorte, ça soit la guerre refuge de tous les juifs du monde. C'est-à-dire, si je dois me sentir en sécurité quelque part, c'est à cet endroit-là. Or, quand vous n'êtes plus en sécurité à cet endroit-là, c'est tout le paradigme, c'est le logiciel, si vous voulez, de fonctionnement de cette entité qui en panne. Et à partir de là, évidemment, vous constaterez qu'il y a une fissure, et d'ailleurs on le constate actuellement, entre le pouvoir politique et la population. Et il dit également, il rappelle plutôt, que ce sentiment de scission va s'aggraver si la loi militaire nouvelle exclut du service militaire, de manière claire, parce que c'est la demande d'une partie des Haridim, en tout cas l'essentielle partie des Haridim, c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas être les soldats du Tsahal. Et à partir de là, évidemment, comment voulez-vous qu'un État crée au nom d'une religion, or le religieux ne veut pas le servir? Comment vous allez expliquer ça aux laïcs? Que si vous êtes là, c'est au nom d'une religion, sauf que la religion ne veut pas vous protéger en servant l'armée. C'est-à-dire, vous avez encore une fois une contradiction fondamentale au sein de la population. C'est-à-dire, il y a un cancer qui est installé dans la population, et ce que le Saïd Hassan Nasrallah a manqué de rappeler, ce n'est pas une petite décision politique ou ce n'est pas une décision légale, c'est une décision claire qui va avoir un impact sur la solidité même. Si solidité il y a, la solidité même de la société sioniste, qui était fondée sur l'idée d'un État pour une religion, en tout cas c'est comme ça que ça a été vendu en Occident, et bien cet État pour une religion n'existera plus, parce que la religion ne vient plus au service de cet État-là. C'est-à-dire cette religion, en tout cas les représentants fondamentalistes, c'est comme ça qu'on les appelle, mais en réalité pour moi il n'y a pas de fondamentalistes, et il y a le fondamentalisme est l'idée du sionisme, et les véritables, si l'on devait revenir à l'étymologie du fondamentalisme, les véritables fondamentalistes ne croient pas à l'existence de l'entité sioniste, ne croient pas en l'État d'Israël, parce qu'ils attendent le Messie pour les conduire à la terre promise. Par conséquent, la démonstration viendra à ce moment-là de l'intérieur de la société israélienne pour démontrer qu'il y a quelque chose qui ne colle pas, et c'est quelque chose qui ne colle pas va impacter la cohésion même de la société et surtout les liens entre la population et le pouvoir politique et voire l'autorité militaire.
Oui, j'aimerais beaucoup connaître l'opinion de Emadeddine Hamrouni justement à propos de ce que vous avez dit, Maître Chami. Emadeddine Hamrouni, je vous prie.
Oui, bien sûr. Vous savez, le discours d'un homme comme Hassan Nasrallah, il est très important de le détailler. C'est-à-dire, il y a derrière les mots l'esprit de la résistance et l'esprit de l'axe de la résistance. C'est-à-dire, il y a, on assiste depuis 2006 à un changement stratégique, l'affaiblissement de l'entité israélienne au niveau tactique. C'est-à-dire, aujourd'hui, la puissance militaire israélienne n'a pas changé. Par contre, c'est son ennemi, c'est-à-dire la résistance en face, que sa tactique au niveau de sa stratégie a changé. Et donc, la stratégie militaire de la résistance, de l'axe de la résistance, a su mettre en échec, si vous voulez, la grande force militaire israélienne, c'est-à-dire la force terrestre. Et donc, il lui reste aujourd'hui que deux forces. La force aérienne et la cohérence politique. Et à l'intérieur, Maître Chami a bien détaillé qu'aujourd'hui, il y a cette fissure à l'intérieur, c'est-à-dire on assiste à la fin du sionisme. Maintenant, l'État d'Israël, il va remplacer quoi? C'est-à-dire il va initier quelle idéologie? Est-ce qu'il y a une autre idéologie pour maintenir le sionisme en Israël? Et donc, on voit que il y a un problème grave dans la cohabitation et la cohérence politique à l'intérieur même d'Israël. Deuxièmement, la force terrestre israélienne ne pourra plus agir sur ses frontières. Rien que Gaza, à Gaza, elle ne peut pas se maintenir pendant 15 jours. Donc rien à l'intérieur même de la Palestine occupée, l'armée terrestre israélienne est mise en échec. Donc, quelle est la stratégie de l'ennemi israélien aujourd'hui? Sa stratégie, c'est les groupes terroristes, c'est-à-dire les Daesh, ceux qui se ressemblent à Daesh, donc tout ce qu'on voit en Irak, en Syrie, en Iran, Pakistan, au Liban, peut-être on va le voir en Turquie prochainement. Donc il y a une autre forme de guerre qui va initier l'entité sioniste. Et donc le discours de Hassan Nasrallah, il cherche deux choses, tout à l'heure j'ai bien dit, il cherche à une cohabitation politique à l'intérieur du Liban, en disant que la résistance libanaise, elle maintient l'équilibre de force avec l'ennemi israélien. Donc vous êtes en sécurité, les Libanais. Tant que le Liban est en sécurité, eh ben, la sécurité d'Israël, elle est maintenue entre parenthèses. Et donc, en maintenant la sécurité politique sociale à l'intérieur même du Liban, Saïd Hassan Nasrallah, il dit, maintenant on peut envisager la production de l'énergie, c'est-à-dire le pétrole et le gaz, et que le Liban et que absolument, le peuple libanais, oui, va profiter de ce changement important. Ce changement important, c'est grâce à la résistance. C'est-à-dire la résistance, c'est un acte, ou c'est un axe, ou c'est un pilier tout important fait, oui, de la politique libanaise.
Absolument.
Et ça, c'est très intéressant.
Absolument. Tous deux, vous avez très bien mis en relief le discours du secrétaire général du Hezbollah libanais. Je vous remercie, Emadeddine Hamrouni, expert des questions internationales depuis Paris, d'avoir répondu à nos questions. Un grand merci à Maître Chami, depuis l'Alsace, d'avoir participé à l'émission du débat d'aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. Au revoir à tous.
La voix de la lumière.
Au nom de Dieu, le tout miséricordieux,
le très miséricordieux. Louange au prophète de la paix et de la clémence, le vénéré Muhammad, que le salut de Dieu soit sur lui et sur ses descendants. Dans ce programme de la Voix de la Lumière, nous vous présentons la lecture, la traduction et l'exégèse des derniers versets du chapitre 45 du Noble Coran, les versets 33 à 37 de la Sainte Sourate Al-Jassiya, l'Agenouillée. Avec la lecture de ces cinq versets, nous arriverons en fait à la fin de la Sourate 45 du Livre Saint. À partir de notre prochain programme, nous vous présenterons la lecture et l'exégèse du chapitre 46 du Noble Coran, la Sainte Sourate Al-Ahqaf. Restez avec nous jusqu'à la fin de la Voix de la Lumière d'aujourd'hui. Dans notre précédent programme, nous avons lu des versets de la Sourate 45 du Noble Coran qui nous ont appris que Dieu est le maître de la vie et de la mort. C'est lui qui redonne la vie à ses créatures, après leur mort, au jour de la résurrection. Cependant, le Saint Coran souligne que certains gens nient la vérité de la résurrection. Mais la vérité est là. Le jour de la résurrection arrivera, et les morts seront ressuscités grâce à la puissance infinie du Seigneur. Pour croire à la résurrection, il suffirait pourtant de contempler l'univers et la création des cieux et de la terre par Dieu le Très-Haut. Au jour du jugement dernier, chaque communauté se mettra à genoux et chaque individu aura le livre de ses actes pendant sa vie. Tout ce qu'ils ont accompli pendant leur vie sera enregistré dans ces livres. Les pieux et les croyants auront leur récompense, tandis que les pécheurs et les mécréants seront condamnés au châtiment douloureux. Dans ce programme de la Voix de la Lumière, écoutons d'abord le verset 33 de la Sainte Sourate Al-Jassiya, l'Agenouillée. Puis nous vous en donnerons la traduction. Leur apparaîtra la laideur de leurs mauvaises actions. Et ceux dont ils se moquaient les cernera. Au jour de la résurrection, les méchants et les mécréants verront à quel point leurs mauvais actes étaient répugnants. Les preuves seront les mauvais actes eux-mêmes qu'ils avaient commis pendant leur vie. Il leur sera donc tout à fait impossible de les nier, car ils se trouveront directement devant leurs actes. Ce verset du Noble Coran nous apprend que le jour de la résurrection sera le jour de l'apparition des actes commis par les humains. Ces derniers connaîtront ainsi les bons ou les mauvais résultats de leurs propres actions. Ce verset nous apprend aussi qu'il ne faut jamais se railler des enseignements de la religion, car cela nous frappera sans aucun doute dans l'autre monde. Voici maintenant le verset 34 de la Sainte Sourate Al-Jassiya, l'Agenouillée. Et on leur dira:
aujourd'hui nous vous oublions, comme vous avez oublié la rencontre de votre jour que voici. Votre refuge est le feu, et vous n'aurez point de secoureur. Les condamnés ont oublié qu'ils se réuniront un jour dans l'autre monde devant le Créateur et qu'ils seront jugés pour leurs actes. Le Coran dit que pour cette même raison, ils seront abandonnés dans l'au-delà et qu'il n'y aura pour eux aucun secours. Par l'oubli, il faut entendre le fait qu'ils niaient la résurrection et la vie éternelle dans l'autre monde, et ils s'obstinaient dans leur perdition. Ils se privent ainsi de la clémence infinie du Seigneur, tant dans ce monde que dans l'au-delà. Le Coran souligne donc qu'ils seront logés éternellement dans l'enfer. Ce verset nous apprend que la foi en la résurrection n'est pas suffisante à elle seule, car le croyant doit toujours s'en souvenir et savoir qu'il sera un jour ressuscité à la volonté de Dieu le Très-Haut. Voici maintenant le verset 35 de la sourate 45 du noble Coran.
ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون.
Cela parce que vous preniez en raillerie les versets de Dieu et que la vie d'ici-bas vous trompait. Ce jour-là, on ne les en fera pas sortir. Et on ne les excusera pas non plus. Le Saint-Coran souligne que deux éléments pourraient conduire l'homme vers la perdition éternelle: la raillerie des messages de Dieu et la séduction de la vie et des désirs matériels. C'est donc ce qui fait que dans l'au-delà, aucune excuse ne sera acceptée de la part des pécheurs et des mécréants. Ce verset nous apprend que le pécheur se laisse tromper par les désirs, les richesses et les caprices. Dieu le Très-Haut a envoyé ses arguments aux hommes et personne ne peut prétendre de ne pas les connaître au jour du jugement dernier. Écoutons enfin les versets 36 et 37 de la sourate 45 du noble Coran.
فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
Louange à Dieu, Seigneur des cieux et Seigneur de la terre, Seigneur de l'univers. Et à lui la grandeur dans les cieux et la terre. Et c'est lui, le puissant, le sage. Dans les derniers versets de la sourate 45, le noble Coran rappelle que tout ce qui est dans les cieux et sur la terre a été créé par le Seigneur et appartient à lui. C'est Dieu qui gère l'univers par sa puissance et sa sagesse infinie. C'est lui qui détermine la destinée de chaque créature et lui indique le chemin qui le guide vers son élévation dans tous les domaines. Chers auditeurs, ici s'achève la voie de la lumière d'aujourd'hui. Nous avons terminé dans ce programme la lecture et l'exégèse du chapitre 45 du noble Coran, la sainte sourate Al-Jassiya, l'agenouillée. À partir du prochain programme, nous commencerons la lecture du chapitre 46 du livre saint, la sainte sourate Al-Ahqaf. D'ici là, nous vous confions toutes et tous à la garde de Dieu.
Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.